La sainteté, donc on a fait. Alors on arrive au bout. C'est. Je fais la dernière. Je sais même plus si j'ai fait déjà. J'ai fait la séance introductive. Hein.
Oui.
Bon, alors. Finalement, on va. Parce que mon but, c'est de terminer un peu en vous parlant. On va dire un peu des principes. Enfin, ce qu'on pourrait appeler. La lumière dogmatique sur la question de la sainteté, hein, la lumière de la doctrine chrétienne, au fond, qu'est-ce que ça veut dire qu'être saint? On a vu plein de sujets très intéressants, sainteté, de l'homme, du temps, le Shabbat, les différentes vocations à la sainteté, plein de trucs. Bon. Là, ça vaut le coup, je dirais, d'achever en essayant de voir comment la théologie, notamment la théologie médiévale, a donné un cadre de pensée, alors, toujours perfectible, hein, mais qui est, je trouve, quand même assez éclairant, assez équilibré pour préciser ce qui est en jeu dans la sanctification de l'homme. On pourrait dire aussi que c'est un peu la marque aujourd'hui, on est dans la semaine de l'unité des chrétiens, je ne sais pas si vous étiez au courant. Oui, le père Delpy l'a dit. Et je dirais que c'est un peu la marque de fabrique de la théologie latine, c'est-à-dire que par rapport à nos frères orthodoxes, on a beaucoup développé ce qu'on appelle la doctrine de la grâce, car c'est d'elle dont je vais parler, la grâce. Donc la grâce, c'est ce qu'on reçoit de Dieu pour devenir des saints. Voilà. Là où les Grecs, on voit les choses un petit peu différemment, alors il n'y a pas vraiment de contradiction, mais ils voient les choses de manière à la fois plus divine et plus liturgique. Alors ils ont notamment toute une doctrine alors, tout à fait fascinante, ça s'appelle la doctrine des énergies divines. Mais je dirais qu'on est à la fois, c'est, à la limite, ils regardent plus Dieu, l'œuvre de sanctification du point de vue de Dieu qui la donne, là où nous, les latins, on regarde l'œuvre de sanctification du point de vue de l'homme qui la reçoit. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes accents, c'est pas du tout le même vocabulaire. C'est... Et puis par rapport à nos frères, alors luthériens, calvinistes, enfin, tout ce qui est issu de la réforme, eux, ils ont radicalisé... la doctrine d'Augustin, de Saint Paul, et donc il ne parle pas tellement de la sanctification, c'est pas tellement, il parle de la justification, donc la dikaios une, ça c'est un truc qui est très important chez Luther, hein, déjà, puis dans je dirais dans le langage et le léthos réformé, l'homme est justifié, qu'est-ce que ça veut dire d'être juste, qu'est-ce qui nous justifie? Il parle de la grâce, évidemment, la charis, beaucoup aussi dans la suite de Saint Paul, parce que le mot charis, hein, on va dire que le grand artisan de la théologie de la grâce, c'est quand même Saint Paul. On trouve chez Saint Luc, chez Saint Jean aussi, un petit peu, pas beaucoup. Et donc c'est très paulinien le thème de la charis, mais c'est pas la grâce qui nous fait saint, qui nous rend saint. D'ailleurs, nos frères protestants, ça, vous le savez, n'ont pas en réaction à des trafics d'indulgence, de machins, de trucs, enfin bon, ils ont plutôt réagi négativement face au culte des saints, hein, pour insister sur la médiation unique du Christ. Donc même le vocabulaire de la sainteté, voilà, ça, on va prier saint machin ou saint ce truc, c'est pas quelque chose qui est très dans l'éthos protestant, là où alors, normalement ça devrait nous parler. Ça nous parlait plus au Moyen-Âge, ou encore, notamment parce qu'on insistait beaucoup sur le fait qu'il y avait des titulaires d'église, qu'on croyait... Je pense plus qu'aujourd'hui qu'une église était sous le patronage, était gardée spécialement par un saint. Donc peut-être qu'on sait un peu, notre dévotion au saint s'est peut-être un peu affaissée. Enfin bon, on va dire que par rapport à nos frères orthodoxes et nos frères protestants, la question de la grâce qui rend saint, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, c'est vraiment c'est le joyau catholique. C'est ce que nous, on peut apporter, en tout cas dans le dialogue... des théologies. Alors, comment ça se comprend, la grâce sanctifiante? En fait, il faut revenir à une grande mutation à la fois intellectuelle et spirituelle qui a eu lieu déjà à partir du XIIe siècle, et puis franchement au XIIIe siècle, alors que ça s'inscrit dans le mouvement des communes, hein, qui c'est même à la fois politique, économique, culturel. Mais disons, c'est l'émergence... On quitte le monde des monastères, qui était à la fois le conservatoire des pères, et puis aussi le monde de l'exégèse, de la prière. Donc on avait un monde, en gros, hein, jusqu'à l'an 1000, on va dire, ou jusqu'à c'était comme les monastères qui étaient les lieux de pensée, de culture, de vie spirituelle dans l'Église latine. Et puis, avec le deuxième millénaire, on ouvre une autre page où c'est les villes, par opposition aux monastères qui sont à la campagne, parce que les moines, en général, au moins en théorie, ils doivent être agriculteurs, ils valorisent la terre. Donc, il y a le monde des villes qui va se doter de structures académiques et intellectuelles. D'abord, les écoles cathédrales. Bon, ça, c'est beaucoup au XIIe siècle. À Laon, par exemple, des endroits comme ça, à Chartres, voilà, des grandes écoles cathédrales. Et puis des universités. Alors ça, c'est plutôt au XIIIe siècle. Mais disons, pour ce qui m'intéresse, on va dire que le XIIIe est dans la continuité du XIIe. Et ce mouvement-là va aussi, c'est pas uniquement un changement de structure institutionnelle, académique, c'est aussi une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de faire de la théologie, où on va dire que la raison est davantage considérée dans ses procédures propres, dans son autonomie, face à la révélation. Il n'y a pas du tout d'opposition foi-raison, hein, on n'est pas du tout, on n'est pas encore dans le monde des Lumières, ni même au XVIe siècle, mais disons, on est plus sensible, on commence à se poser des questions que jamais un bon moine ne se serait posé, sinon il aurait été, je pense, chassé à coups de bâton, il l'aurait bien mérité. C'est qu'est-ce que je peux connaître par la raison et qu'est-ce que je peux connaître que par la foi et qu'est-ce que je peux connaître peut-être par la foi mais que la raison seule en théorie me permettrait de connaître. Vous voyez, ce type de question, c'est pas du tout une opposition de foi et raison, hein, on n'est pas du tout en train de dire, mais on essaye de faire la part des choses. Alors ça, c'est nouveau, hein, ça commence au XIe siècle et donc il y a une espèce de nouvelle manière de faire de la théologie et cette prise en considération plus grande de la raison va à la fois être étayée et promouvoir la redécouverte de la philosophie comme discipline intellectuelle autonome. Ce qu'on avait perdu, en gros, depuis les pères de l'Église. La posture majoritaire chez les pères de l'Église, c'est avec le Christ, les philosophes, on n'a plus besoin. C'était très bien avant. En fait, les philosophes, c'était un peu comme la loi de Moïse. C'était une préparation à l'Évangile. C'était très bien et c'était des gens très estimables, même s'il y a aussi des grosses erreurs et que beaucoup d'hérétiques, comme disait Tertullien, les philosophes sont les patriarches des hérétiques. Hein. Donc, quoi de commun entre Rome et Athènes, hein. Vous connaissez la phrase de Tertullien, qui était lui-même un assez bon philosophe, d'ailleurs, de tradition, assez stoïcien. Donc, le premier millénaire, on va dire que la théologie n'a pas le besoin de... Enfin, elle a digéré ce que la philosophie pouvait lui apporter, notamment la philosophie platonicienne, néo-platonicienne. Et au deuxième millénaire, ben voilà qu'il y a de nouveau comme les partenaires d'un dialogue, hein, ce qui se voit notamment dans le monde institutionnel, puisque à côté de la faculté de théologie, vous aurez la faculté des arts. La faculté des arts, c'est la faculté de philosophie. Et ça, ça s'accompagne aussi donc de la redécouverte d'Aristote, qu'on n'avait jamais complètement perdu de vue. Mais enfin, la grande source quand même d'inspiration, c'était plutôt le platonisme. On n'avait jamais perdu de vue les catégories, par exemple. Il y avait deux, trois trucs qu'on avait gardés, la logique. On savait qu'Aristote, il faisait de la logique, c'était un bon logicien. Mais on redécouvre, parce que grâce aussi aux traductions de l'arabe, enfin bon, c'est très compliqué, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais Aristote devient, comme dit saint Thomas d'Aquin, le philosophe. Dans la somme, quand il dit le philosophe, ça veut dire Aristote, c'est beau comme titre, hein, de dire le philosophe, c'est Aristote. Aristote, vous savez que dans la métaphysique, par exemple, il essaye d'écrire, d'organiser les différents savoirs. Et donc, il donne aussi il y a une forme de réflexion épistémologique. C'est aussi ça qui va servir pour les médiévaux, pour dire, ben, au fond, c'est quoi la théologie? Parce que finalement, les pères de l'Église, c'était comme M. Journin, ils faisaient de la théologie sans le savoir. Le mot même de théologie, d'ailleurs, n'avait pas du tout le sens que nous, on lui donne aujourd'hui, d'une discipline plus ou moins universitaire, dont on dit, ben, la théologie, c'est sérieux, c'est argumenté, il y a des livres. Bon, non, les pères de l'Église, ils faisaient de la théologie en faisant des homélies, en faisant des commentaires d'écriture, en faisant des... Mais ils ne disaient pas, je vais faire de la théologie. La théologie arrive comme discipline académique au moment où on a les moyens intellectuels de dire, mais on... Là, toujours les procédures de la raison, hein. qu'est-ce que c'est que faire de la théologie ? C'est quoi la règle, les règles, presque les règles logiques qui permettent de faire de la théologie ? Ça, c'est Aristote qui nous les donne. Alors, on va adapter, parce qu'il y a quand même... Aristote, évidemment, n'avait pas connaissance de l'Écriture sainte, il n'avait pas dit... Mais disons, on va s'inspirer de ce que dit Aristote pour dire, bon, maintenant, la théologie, c'est de la science. Parce que jamais, là encore, un moine aurait dit ça. Ou alors, c'était la science divine, mais ce n'est pas de la science au sens aristotélicien. Avec les universités, la théologie devient une science. Alors, c'est dans ce contexte-là où la raison, on aime bien préciser les choses, une démarche plus critique, on va dire. On essaye aussi de détailler. Vous voyez, c'est une pensée assez analytique qui cherche à préciser les mots, les concepts, les définitions, à bien articuler. On voit quand même, enfin, il suffit de comparer. Tiens, si vous lisez les Confessions ou la Cité de Dieu, ou même le De Trinitate, qui est le traité peut-être le plus doctrinal de saint Augustin, et la Somme de théologie, vous dites, mais c'est très différent, même littérairement, c'est pas la même. Même quand il y a des points communs sur le fond, ils ne le disent pas du tout pareil. Alors c'est dans ce contexte que on va justement essayer de préciser, ben justement, c'est quoi la sanctification du côté de l'homme. Parce qu'au fond, ce grand mouvement dont je vous parle, et moi j'aime bien retenir le nom de saint Anselme comme paradigmatique du basculement entre le premier millénaire et le deuxième millénaire, vous voyez qu'il met plus en avant la part de l'homme. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de... Il y a une forme de renaissance, c'est-à-dire on redécouvre aussi un petit peu, peut-être pas les classiques, mais en tout cas, on donne plus d'importance à la philosophie païenne. Donc tout ça, ça n'arrive pas par hasard que ce sont les médiévaux, et notamment saint Thomas d'Aquin, qui ont, en un sens, qui sont allés peut-être le plus loin dans la description, à la fois la vie de la grâce, mais même les mots, les concepts qui nous permettent de déchiffrer en nous l'œuvre de la grâce. Alors, on s'inspire évidemment d'Aristote. Alors, de quel livre va être particulièrement précieux ? C'est évidemment l'Éthique à Nicomaque, puisque c'est là où Aristote, du point de vue de la philosophie, se pose des questions sur l'homme. Qu'est-ce que le bonheur ? C'est quoi le bien ? Comment est-ce qu'on atteint le bien ? Donc, on a une espèce de réservoir et qui va nous permettre, avec des transpositions évidemment idoines, parce que la théologie, c'est pas juste dire là, Aristote a eu raison, hein, on change les choses à la lumière de la parole de Dieu, mais on va utiliser des concepts d'Aristote et on va les travailler pour qu'ils deviennent serviteurs de la parole de Dieu. Un autre domaine d'ailleurs, mais il ne faut pas que je m'engage là-dedans, c'est fait de manière encore plus brillante, c'est la théologie trinitaire. Hein. Quand saint Thomas d'Aquin élabore le concept de relation subsistante, c'est éblouissant. Éblouissante ce qu'il fait par rapport à ce que fait Aristote. Donc c'est en gros comme ça que les grands scolastiques vont travailler. Non pas s'inféoder bêtement à la pensée païenne, ce qui mettrait en danger le caractère surnaturel de la révélation, mais voir ce qu'il y a de vrai, de juste et de fécond dans la réflexion notamment d'Aristote, et puis, sous les mêmes mots parfois, donc faut un peu se méfier, hein, mais sous les mêmes mots, on va mettre des réalités différentes parce qu'elles vont être habitées par la révélation biblique, et puisque tous les pères de l'Église, notamment saint Augustin, enfin les deux grands inspirateurs de saint Thomas, c'est saint Augustin et le pseudo-Denis. Alors, je vais revenir à une question fondamentale quand il s'agit de cette fameuse grâce. Enfin, comment dire ? Qu'est-ce que la grâce ? Bon, qu'est-ce que la grâce qui nous rend saint ? C'est la grâce sanctifiante. Vous dormez parce que vous avez avalé une boisson avec une vertu dormitive. C'est pour ça que vous dormez. Bon, hein, Molière n'a pas tout à fait tort de se moquer. Il se moque de quoi, de cette tendance qu'il y a chez les scolastiques à opérer les distinctions ? Alors, il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il ne faut pas que ça soit juste un jeu verbal. Mais c'est vrai que dans cette nouvelle mentalité plus critique, plus analytique, très souvent, par rapport aux pères de l'Église, on hérite d'un vocabulaire pas toujours cohérent d'un auteur à l'autre. Saint Ambroise, Saint Jérôme, Saint Augustin disent pas toujours la même chose. Et même chez le même auteur, Augustin dit pas toujours la même chose. Et les médiévaux n'aiment pas trop ça. Ils aiment bien, c'est un peu des mathématiciens de ce point de vue-là, ils aiment bien que les mots aient tous le même sens. Alors, quand ils trouvent pas ça chez les pères, ils disent, bah, en fait, là, il est un peu imprécis, mais... Il parlait de la grâce, de telle la grâce, par exemple, en fait, il visait tel aspect de la grâce, en parlant de la grâce en général, puis un autre endroit, il parle de la grâce, mais c'est d'une autre grâce. Vous voyez, on va essayer de préciser les notions pour... je ne dis pas que leur objectif, c'est d'arriver à l'univocité, mais enfin, en tout cas, c'est bien analytique. Hein, on multiplie les concepts. Alors, dans la grâce... Alors, ça fonctionne aussi beaucoup par couple, cette histoire-là. Et donc, dans la grâce, on va multiplier les binômes, les couples, qui essayent de préciser ce qui, fondamentalement, est un. Hein, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous, mais avec la coopération de l'homme, puisque... Comme dit saint Augustin, je crois que c'est dans les Générationes et les Psalmos, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Donc la grâce suscite et attend de nous une réponse. Alors il y a plusieurs binômes. Alors d'abord, qu'est-ce qui concerne le Christ ? Alors là, il y a des grâces tout à fait spéciales pour le Christ. C'est des grâces que seule l'humanité du Christ a reçues, parce qu'elles correspondent à l'incarnation. Ah, c'est peut-être ça dont je vous ai parlé cet été, tiens, ça me dit quelque chose, la grâce capitale. Je vous ai parlé de la grâce capitale et de la grâce, d'union, hein, ça, non ? Non ? Bon, alors peut-être pas. Ça concerne le Christ. Alors c'est plus de la christologie, c'est la source de la grâce. Enfin, c'est par le Christ qu'on reçoit la grâce, mais ce qui intéresse les hommes en général, ou les baptisés, on va distinguer la grâce opérante de la grâce coopérante, la grâce antécédente de la grâce subséquente. Un peu plus tard, on parlera de la grâce suffisante et de la grâce efficace. Et rappelez-vous que la grâce suffisante, c'est une grâce qui n'a pas suffi, comme le mot l'indique. Enfin, ça, c'est un petit peu plus tardif que le 13e. Hein, mais donc, et la grande... Alors, il y a plein de distinctions, j'en passe, mais la grande distinction, si vous devez retenir un truc, si je devais mourir ce soir, je voudrais que vous reteniez de moi que la grande différence... Enfin, le grand binôme à savoir, c'est la différence entre grâce actuelle et grâce habituelle. Alors, c'est ça que je vais vous expliquer dans les 5 minutes qui me restent. Grâce habituelle et grâce actuelle. C'est ça que les médiévaux ont trouvé, et notamment saint Thomas d'Aquin, c'est quand même le grand artisan de cette histoire-là, et c'est quand même, je trouve, c'est quand même un petit joyau. Même si ça n'est pas exempt de limites, et j'essaierai peut-être, ou dans les questions, de pointer une ou deux limites. Mais... Alors, il faut revenir pour ça à la question 109 de la Secunda Secundae. Donc, tout le monde, je pense, connaît le plan de la Somme. Donc, si, quand même, un petit peu, ça, vous devez savoir ça. Donc, il y a la prima part, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'action de Dieu vis-à-vis de la création. La seconda part, c'est le mouvement de la créature, c'est le retour de la créature vers Dieu. D'abord les principes généraux, puis particuliers. Et puis la tertia part, inachevée, on va dire c'est le Christ et les sacrements. La première part, on va dire c'est Dieu, et Dieu en lui-même est Dieu créateur. La seconda part, on a les principes généraux de l'action et les principes particuliers. Donc vous avez à la fois de l'anthropologie et de la morale. Et puis à la fin, vous avez le Christ. En gros, c'est Dieu, l'homme et l'homme-Dieu. C'est facile, hein. Dieu, c'est Dieu. L'homme, c'est l'homme. Ça valait le coup de venir, quand même. Pour et l'homme-dieu... Ah, c'est compliqué, là, tiens. C'est qui, l'homme-dieu ? C'est le Christ, voilà. Vous avez le plan. Alors, là, on est dans la question 109 de la Secunda Secundae. Alors, bon, si vous n'avez jamais vu comment c'est fait une question de la Somme, ça vaut le coup d'aller voir. C'est du sic et non. Hein. En gros, il pose une question. Il faut tout de suite aller voir la réponse. Et puis ensuite, c'est encadré par des objections et des solutions. Donc les objections, c'est en gros quand il dit est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, est-ce que Saint-Étienne est la meilleure équipe de foot ? Tout le monde va répondre oui, c'est évident. Mais vous avez des objections, ça fait quand même 10 ans, 20 ans qu'ils n'ont pas gagné un championnat. Alors, ce qui est important, vous allez voir la solution qui en général vous donne la réponse traditionnelle qui est celle de, l'article. Mais quand même, les objections demeurent, et ça, c'est les solutions qui vont montrer qu'en fait, les objections n'étaient qu'apparentes. C'était qu'en fait, on parlait d'autre chose, ou on n'avait pas bien vu le truc. Et il y a toujours l'idée qu'on sauve les autorités. Hein, c'est-à-dire que jamais, on va dire, Augustin s'est trompé, ou la Bible dit n'importe quoi. Hein. Ça n'arrive pas. Hein. Même Aristote, on essaye de... Vous voyez, c'est une pensée analytique, mais conciliatrice. Alors, il y a un côté dialectique, mais ce n'est pas la dialectique de Hegel. Hein. On n'est pas encore là, même si c'est pas sans rapport. Hein, mais... Sic et non. Alors, j'ai dit question 109, c'est la question 110. C'est l'article 2 de la question 110, donc de la Secunda Secundae. La grâce est-elle une qualité de l'âme? Point d'interrogation. Alors, puisqu'avec ce que je vous ai dit, est-ce qu'il va répondre oui ou est-ce qu'il va répondre non? Non, il va répondre oui. Il dit toujours, quand il met la question, rappelez-vous, la première question c'est de la somme, c'est est-ce que Dieu existe? Question 1 de la prima part, c'est An Deus sit. Et bien en fait, il va dire que oui, Dieu existe. C'est tout. Non, jamais un moine n'aurait posé cette question. Si vous voulez sentir, il y a un auteur qui a fait sa thèse sur saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, sur l'esthétique de saint Thomas, qui fait très bien sentir ce tournant intellectuel et spirituel qu'il y a vers XIe siècle, c'est Umberto Eco. Hein. Le nom de la rose, alors le film est assez mauvais, je trouve. Par contre, le bouquin est pas mal du tout. Et donc, justement, le coupable, enfin, je vais faire un spoiler, mais le coupable, c'est un vieux moine un peu tradi, qui n'est pas du tout content, qui est Aristote dans la bibliothèque du monastère. Donc, alors, je sais plus, il a cramé, je sais plus ce qu'il a fait. Il a foutu le feu à la bibliothèque, je crois, il y a eu des morts. Mais sur le fond, je dis pas qu'il avait tort, mais. Donc, voilà. Donc, on met toujours. Dieu existe-t-il? C'est très représentatif de ce nouvel âge. Vous voyez pourquoi est-ce que ça annonce déjà un peu l'âge critique, hein? Un moine qui aurait osé lever la main au chapitre « Père Abbé, An Deus sit ». Mais le mec, on le brûlait, je pense. Mais ça... Vous voyez, alors que les sommes, c'est normal de commencer par « An Deus sit ». Est-ce que Dieu existe? Parce que la raison doit éprouver, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'est-ce qu'elle arrive à dire? Vous voyez, ça fait très bien. Alors, donc la réponse est toujours oui, hein, rappelez-vous, puisque ça commence par « An Deus sit » et qu'on va répondre oui. Sinon, la somme théologique serait très très courte. Alors, la grâce est-elle une qualité de l'âme? Oui. Mais, maintenant, on va expliquer ce que ça veut dire. Alors, donc, je vais lire un petit bout de l'article 2, donc je vais aller à la réponse, puisque je vous ai dit, c'est la réponse qui compte. Alors, voilà ce que dit saint Thomas, je suis désolé, je le lis en français. Dire de quelqu'un qu'il a la grâce de Dieu... C'est un autre mot pour dire le salut, la grâce. Hein. Dieu fait grâce, Dieu nous sauve. C'est dire qu'il y a en lui un effet déterminé produit par l'amour gratuit de Dieu. Intéressant, il y a l'amour gratuit. On voit bien ça, c'est un truc spontanément, on dit oui, la grâce, c'est quelque chose que même si on n'a pas beaucoup tourné, mais c'est ce que... La grâce, c'est gratuit, hein. C'est un des trucs sur lequel saint Paul insiste, entre autres. Donc c'est un effet déterminé produit par l'amour gratuit de Dieu. Mais des effets, il peut y en avoir plein, des effets. Nous avons dit d'autre part... Attends. Non, c'est mal, vas-y, il y a un problème de OCR, là. Nous avons dit d'autre part, là j'ai d'autres parties, mais c'est pas ça. Nous avons dit d'autre part, je pense, que l'homme est aidé d'une double manière par cette volonté divine toute gratuite. Voilà. Donc, il y a un effet... Alors, on peut faire plein de distinctions, mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt... La distinction la plus importante, c'est celle qui va expliquer ici. Il y a deux manières, il y a deux types d'effets, il y a deux dynamiques de grâce. Alors, première manière, d'une part, en ce sens que l'âme humaine est mue par Dieu, soit pour connaître, soit pour vouloir, donc ce sont les deux opérations intellectuelles, les deux opérations spirituelles, pardon, de l'âme humaine, soit pour agir. C'est intéressant déjà. La grâce, dans une première dynamique, elle me fait comprendre quelque chose, elle me fait vouloir quelque chose, et elle me fait agir. Trois dimensions décisives de l'existence humaine. Connaître, vouloir, agir. Ça fait penser à l'action catholique, hein, voir, juger, agir, hein, finalement. Bon. Sous ce rapport, l'effet gratuit produit dans l'homme n'est pas une qualité, mais un certain mouvement de l'âme. Une qualité, c'est quelque chose qui est stable, si vous voulez. C'est quelque chose qui devient une propriété. Ouais, quel est le principal défaut de Jean-Claude? Voilà, exactement. Alors ça, c'est pas une qualité, c'est un défaut. Mais une qualité, c'est le contraire d'un défaut. Voilà, Jean-Claude est très souvent égoïste. Ça n'a rien à voir avec le ski. Mais il pourrait être une qualité, vous voyez, c'est quelque chose de stable. Là, on parle d'un mouvement de l'âme, et donc on comprend, puisque c'est pas une qualité, que c'est un mouvement ponctuel. Par exemple, je sais pas, je suis tiens, bah, un truc où ça arrive typiquement très souvent, vous faites de l'évangélisation de rue. C'est vraiment étonnant comment, moi, c'est un des lieux... Attends, faut pas que je me perde dans mes histoires, là. C'est un des lieux où je sens la mère la plus sensible que la grâce nous rejoint, parce qu'elle vous fait dire exactement ce qu'il faut à la personne, voire même... Enfin, c'est très étonnant, hein. C'est typiquement ce type de grâce. Vous avez le mouvement qu'il faut au bon moment pour un effet déterminé. Ça peut arriver dans un temps de prière, tout d'un coup, tiens, paf, tout d'un coup, j'ai une belle... la volonté, tout d'un coup, je me dis, mais vraiment, il faut que je change de vie, il faut que... Voilà, ça renforce un peu la connaissance, c'est un verset de la Bible où pour agir. Je vois un pauvre, j'ai très, très envie de détourner le regard, puis presque malgré moi... Voilà que je regarde mon portefeuille en me disant j'espère que j'ai rien dedans. Merde, j'ai un billet de 50 et je lui ai, laissé le billet de 50. Je suis dégoûté. Bon, alors c'est. Ça, vous voyez, c'est la grâce. Alors, c'est une grâce qui n'est pas, heureusement, le lendemain, rassurez-vous qu'ils n'auront rien, hein, les mecs. Hein. Donc, c'est pas une qualité de l'âme parce que je suis resté fondamentalement. Comment on appelle ça ?
Avare.
Avare, voilà. Il ne faut pas donner d'argent aux pauvres, ils le boivent. Non, c'est pas ça. Non, alors, vous voyez, donc, un mouvement de l'âme. Alors là, selon Aristote, en effet, vous voyez, notre pauvre moine, là, vous voyez, comme il serait triste, il est en train de nous parler de la grâce de Dieu, et qu'est-ce qu'il dit selon Aristote ? Pauvre moine, il avait raison de brûler les... Vous voyez, ça, c'est typiquement... nous, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est incroyable de dire ça pour étayer une affirmation qui est foncièrement théologique, selon Aristote, qui n'était pas spécialement chrétien, faut-il le rappeler. En effet, alors citation, le mouvement est l'acte de l'agent moteur considéré dans le mobile. Alors ça, c'est... attendez, si je me souviens, c'est dans la physique, hein, si je me souviens. Je sais plus si c'est dans la métaphysique ou dans la physique. Je crois que c'est dans la physique. J'ai pas la citation, c'est du mauvais OCR. Donc, c'est l'acte de l'agent moteur, donc là c'est Dieu, considéré dans le mobile. Si vous deviez vous représenter cette phrase d'Aristote qui est là pour illustrer ce premier type de grâce, qui n'est pas une qualité, à quoi ça vous fait penser ? Et les exemples que j'ai donnés allaient dans ce sens-là. C'est l'acte de l'agent moteur considéré dans le mobile. J'essaie de mimer. C'est quoi le truc qu'on mime ?
C'est l'accélération dans la voiture, on démarre.
Les marionnettes ?
Voilà, les marionnettes. C'est l'acte de l'agent moteur considéré dans le mobile. C'est-à-dire que je vois la petite marionnette, enfin, je sais plus comment c'est les marionnettes, enfin, il y a un gars qui donne des coups de bâton, là, je sais plus, elle est longue. Et puis je dis, ah bah oui, bah, si ma marionnette bouge, c'est qu'en haut, il y a un monsieur qui bouge la ficelle. C'est vrai que c'est un petit peu comme ça, vous voyez, quand je dis que c'est un truc qu'on sent très fort, c'est un côté magnifique parce qu'on se dit mais Dieu est vraiment avec moi, je sais pas d'où j'ai sorti ça, je sais pas quand j'ai sorti la bonne phrase alors que le mec j'ai dit ce qui correspondait à sa vie, ça faisait pas 5 minutes que je le connaissais. Oui, on est content, mais voilà, c'est l'acte, c'est d'abord un acte de l'agent, c'est d'abord un acte de Dieu considéré dans le mobile. Alors d'autre part, je m'arrête à moins 10, hein, c'est ça, hein. C'est 12 minutes encore. D'autre part, alors là, vous voyez, on va arriver à cette deuxième dynamique qui, au fond, est plus importante. L'homme est secouru par la volonté gratuite de Dieu, bon, ça, on connaît, en ce sens que Dieu infuse dans l'âme un don habituel. Il infuse dans l'âme un don habituel. Alors, premier éclaircissement, l'habitus. Qu'est-ce que c'est qu'un habitus ? Alors, c'est là où l'apport d'Aristote est le plus précieux, c'est que Aristote, quand il s'intéresse à des questions philosophiques, qu'est-ce que le bonheur ? Alors il dit qu'il y a plein de manières différentes, tout le monde veut le bonheur, mais il y a 17 définitions différentes du bonheur. Il cherche, il dit, bon, puis finalement, celle qui est la plus convaincante, qui est une très belle définition du bonheur, il dit le bonheur, c'est la vertu. C'est dans le bien, mais un bien... qui est tellement dont je suis tellement coutumier que ça devient comme une seconde nature. C'est pas simplement je fais le bien, mais je suis devenu un homme bon. C'est plus simplement dans un acte de générosité mal maîtrisé, j'ai filé 50 euros à un clochard. C'est je suis devenu vraiment bon. C'est-à-dire que je donne à tous ceux qui me demandent, je leur réponds, j'essaye de les aider. Ouais. Ça, pour Aristote, c'est, vous voyez, le bonheur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce que beaucoup de gens, à ce que peut-être tout, n'importe quel être humain, hein, moi le premier, on croit d'abord, on situe toujours le bonheur en dehors de nous. C'est quoi le bonheur ? Bon, alors on sait qu'il ne faut pas répondre tout de suite l'argent, hein, mais on dit, bah, c'est comme... Mais ça serait plutôt une belle baraque, un bon boulot, un bon salaire, puis tout ce qui va, une belle bagnole. Enfin, vous voyez, on est en tendance à situer le bonheur dans des objets qui sont à l'extérieur de nous. À l'extérieur de nous. Aristote dit, ça ne suffit pas, ça. Au fond, le bonheur, c'est que ça devient une propriété de l'homme lui-même, une qualité de l'homme lui-même. Et alors, c'est là qu'il parle de l'habitus. Alors, c'est une analyse de l'acte qui, au fond, est assez simple. C'est que, entre... si vous voulez, je peux considérer un acte, alors pour le coup, dans la singularité ou le surgissement quand il est posé dans le monde, bon, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, appuie sur trois touches de piano, on dit, bon, bah, il appuie sur des touches de piano. Je peux aussi le considérer dans la vie, on pourrait presque dire dans l'histoire même de celui qui pose l'acte, et remarquer que la nature humaine est ainsi faite que des actes répétés deviennent en nous comme une seconde nature. C'est-à-dire que la répétition d'actes, toujours un peu semblables à eux-mêmes, ça va changer grandement la facilité ou la difficulté que je vais avoir à les poser. Ça marche pour le bien comme pour le mal. Si... La première fois que, prenons un truc qui est moralement neutre, le piano, la première fois qu'on me dit « joue du piano », alors c'est très maladroit, je ne sais pas où sont les touches, je fais, j'ai du mal à faire « ta 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 », enfin c'est moche, c'est comme tout. Bon, puis après, on me dit bah « là, il va falloir que tu fasses des gammes, tu répètes, c'est... et au bout d'un moment, de 5 ans, 10 ans de piano, bah, d'une certaine manière, oui, je peux dire, c'est magnifique de voir que je suis capable de jouer du piano, mais ce qui est important, c'est surtout que je suis devenu pianiste. Et devenir pianiste, ça veut dire que ça m'est aussi naturel de jouer du piano que de respirer. Est-ce que je pense quand je respire ? Est-ce que je pense quand je marche ? Quand on se met à penser au fait qu'on marche, on marche de manière maladroite, on est tout emprunté. Parce que c'est devenu une seconde nature. J'ai beau l'avoir appris, on m'a appris à faire du vélo au début, je me cassais la figure, puis maintenant j'en fais, je mets mon grand tout en 10 minutes, là, ça se fait tout seul. C'est devenu une seconde nature. C'est exactement ça, un habitus. C'est une disposition stable à produire facilement un acte. Et cette disposition, elle est acquise. Elle est acquise par la répétition de l'acte. Et d'un point de vue moral, on distingue deux types d'habitus. En grec, c'est exis, hein, mais echo, ça veut dire avoir. Abere, c'est avoir en latin, donc c'est la même racine. Les habitus qui naissent de la répétition d'actes bons, on appelle ça... Les vertus et les habitus qui naissent de la répétition d'actes mauvais, on appelle ça des vices, voilà. Alors c'est cette analyse, et donc, encore une fois, le bonheur pour Aristote, c'est les vertus. Alors on va utiliser cette analyse en disant, mais la grâce, il n'y a pas que l'aspect donc mouvement, motion singulière, ponctuelle, qui va... traverser mon âme, mais deux secondes après, ça y est plus. En fait, Dieu va conférer, donner à notre âme quelque chose qui est très proche d'un habitus, avec cette différence essentielle, c'est que c'est absolument pas un habitus acquis, fin du verbe acquérir, c'est un habitus. C'est pas du tout un habitus inné, pardon, merde, je vais y arriver, c'est pas du tout, c'est un habitus acquis par la répétition d'actes que je pose, c'est un habitus que Dieu me donne, je vais y arriver. D'où les précisions que saint Thomas nous donne, Dieu infuse dans l'âme un don habituel. Si je dis juste, la grâce c'est un habitus, je tombe dans une très vilaine hérésie au fond. Ça veut dire qu'au fond, ah, je suis en train de dire, bah, pour sauver, la grâce c'est une autre manière de dire, je fais le bien, mais par moi-même, par la vertu. Comment s'appelle cette vilaine hérésie ? Le pélagianisme. Donc, on a repéré que dans le mouvement de la sanctification, donc de la grâce, il y a quelque chose qui ressemble très fort à un habitus, au plan anthropologique. Mais, comme je vous l'avais dit, on n'a pas peur de récupérer des concepts, mais il faut les travailler pour que ça ne devienne pas des hérésies. Et là, on va le travailler dans son origine. c'est impossible d'obtenir l'habitus dont il est question ici, qu'un habitus de grâce simplement à partir de moi-même en répétant des actes. C'est d'abord recevoir cet habitus de la part de Dieu. Alors c'est là qu'on emploie le verbe infundere, donc qui veut dire insérer, donc ça n'a rien à voir avec infuser avec une boisson chaude à base de plantes. Alors ça, ce deuxième type de grâce, c'est la grâce la plus importante. On l'appelle la grâce habituelle. Pourquoi ? Parce que c'est un habitus. Mais un habitus surnaturel, puisque c'est Dieu qui nous l'a donné, gratuitement. La première grâce, qui est très précieuse, il ne faut pas du tout la mépriser, c'est ce qu'on appelle la grâce actuelle. Et alors là, méfiez-vous du piège, parce que ça, je le dis à mes étudiants... Enfin non, je ne peux pas dire n'importe quoi, parce qu'on enregistre, mais... C'est qu'il y a un énorme piège, c'est que la grâce actuelle... Vous voyez, normalement, un habitus est ordonné à des actes. Mais attention, la grâce actuelle, ça n'est pas l'acte produit par la grâce habituelle. Hein, attention, c'est deux choses différentes. Okay ? Alors, je termine ce que dit saint Thomas. Pourquoi est-ce que Dieu agit comme ça ? Donc, on est secouru parce que Dieu, en ce sens que Dieu infuse dans l'âme un don habituel. Et il le fait parce qu'il ne convient pas que sa providence soit moins attentive à l'égard de ceux que son amour gratifie du bien surnaturel, la grâce, qu'à l'égard des créatures auxquelles son amour donne le bien naturel. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment, on veut justifier. C'est ça la théologie. On ne se contente pas de dire « c'est comme ça » et maintenant, passez votre chemin. On essaye d'expliquer pourquoi c'est le mieux, c'est le plus convenable, c'est le plus fort. Pourquoi est-ce que Dieu ne se contente pas de nous sauver par des grâces actuelles ? Pourquoi est-ce qu'il nous donne cette grâce habituelle ? Alors, saint Thomas nous dit « parce que Dieu a une manière d'agir vis-à-vis du monde naturel qui va servir un peu de modèle pour son action dans le monde surnaturel, donc le monde de la grâce. Quand il s'agit des simples créatures, en effet, l'homme, mais pensons au règne animal déjà, Dieu, dans sa providence, ne se contente pas de les mouvoir à leur acte naturel, mais encore il leur octroie des formes et des vertus qui sont les principes de leurs actes et les porte à agir en tel ou tel sens conformément à ce qu'elles sont elles-mêmes. » Alors ça, c'est très beau, je trouve, ce que dit saint Thomas. « C'est pourquoi les mouvements que Dieu imprime aux créatures leur sont connaturels et faciles. Selon cette parole du livre de la sagesse, il dispose toutes choses avec douceur. » Vous voyez, si je reprends mon image du marionnettiste, saint Thomas dit « Mais ça serait profondément indigne de Dieu et que Dieu gouverne le monde comme un marionnettiste. » Il y aurait une forme d'aliénation des créatures vis-à-vis d'elles-mêmes, et pas simplement des créatures humaines, hein, même des animaux. Et c'est plus expressif de la perfection et de l'amour de Dieu que, d'une certaine manière, nous n'ayons pas besoin de Dieu tout le temps. C'est-à-dire que, pensons à l'instinct des animaux, alors ça, les livres de la sagesse, et les livres de la sagesse réfléchissent à ça, notamment, on peut voir le livre de Job, la fin du livre de Job, mais aussi le livre des Proverbes, c'est le fait que les animaux ont une forme de sagesse. Ils savent où aller, ils savent creuser leur terrier, ils connaissent les saisons, ils ont une forme de connaissance et dont on se dit, mais d'où ça vient ? Et bon, on dirait c'est l'instinct, mais saint Thomas dit, mais c'est beau de voir ça, que même les animaux, d'une certaine manière, Dieu veut pas... Il agit avec douceur avec eux, à tel point que, c'est la phrase qui disait, elles agissent conformément à ce qu'elles sont. Voilà la clé. Est-ce que la sainteté me fait agir conformément à ce que je suis ? S'il n'y avait que le premier type de grâce qu'on appelle la grâce actuelle, d'un côté, ça, je vous dis, c'est très très gratifiant d'avoir, je sens le jeu de mots, c'est très gratifiant d'avoir une grâce actuelle, parce qu'on se dit, mais Dieu est vraiment avec moi. Mais si toute ma vie spirituelle était sous ce mode-là, enfin, je pense qu'au moment, on serait vraiment fatigué, et puis on dirait, mais du coup, À quoi sert ma raison, à quoi sert mon intelligence, ma liberté, si Dieu court-circuite tout le temps ces puissances de l'âme ? Alors la deuxième grâce, c'est une grâce qui est tout à fait surnaturelle, mais c'est une grâce qui va épouser le mouvement même de l'âme humaine. Surnaturelle et naturelle à la fois, on pourrait dire. Elle est surnaturelle dans son origine, elle est surnaturelle dans son exercice, parce que c'est quoi les actes que la grâce sanctifiante nous fait poser ? Ce sont les actes de charité surnaturelle. Surnaturelle dans son origine, puisqu'elle est infusée, par le petit sachet là, de divin. Elle est surnaturelle dans son exercice, parce que la grâce sanctifiante fait qu'en gros, elle me permet d'aimer comme Jésus a aimé. En fait, c'est si bête que ça, la grâce sanctifiante. mais c'est une grâce habituelle, c'est-à-dire que plus j'aime comme le Christ, et en fait normalement plus ça m'est facile d'aimer, plus je comprends aussi que c'est mon bonheur d'aimer. Alors peut-être des fois je me dis mais pétard, les 50 euros j'ai pas envie de les filer, quoi. Vous voyez, c'est... et plus d'une certaine manière ça devient une seconde nature, c'est-à-dire que c'est pas seulement que je fais des actes charitables, je deviens charitable, je deviens saint. C'est pour ça que c'est cette grâce habituelle, on l'appelle, c'est parfaitement synonyme, la grâce sanctifiante. Et elle est surnaturelle aussi dans sa finalité, puisque ce qu'elle vise, c'est rien de moins que l'amitié avec Dieu et avec les hommes. Enfin, c'est votre manière de dire qu'elle pose la charité. Mais, donc elle est complètement surnaturelle, mais dans son exercice, elle est beaucoup plus immanente à l'homme que la grâce actuelle. À tel point que, autant la grâce actuelle, en général, je vois, je me dis peut-être que j'étais vraiment inspiré ce jour-là. Puis en fait, non. C'est... Autant la grâce habituelle, elle peut être très, très en sourdine. Peut-être même invisible. Peut-être même, je peux avoir l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais en fond, c'est peut-être que je suis en train de franchir une étape. La vie spirituelle passe par des étapes. Mais fondamentalement, c'est un habitus qui grandit. Voilà, c'est ça, un habitus. Alors voilà, et ça, pourquoi ? Alors rappelez-vous, pourquoi est-ce que Dieu nous sauve avec une grâce ? Pourquoi est-ce que Dieu nous rend saints ? Des fois, on pourrait dire que ça serait plus simple s'il n'y avait pas cette grâce sanctifiante, parce qu'au fond, la grâce sanctifiante, c'est aussi ce qui est onéreux, puisque ça fonctionne comme un habitus, donc c'est une grâce qui m'aide à agir avec Dieu. C'est une grâce qui m'aide à m'engager avec Dieu. C'est une grâce où l'homme a plus de consistance face à Dieu que la grâce actuelle. C'est fatigant, et puis des fois, on se plante. Et on pourrait dire que ça serait quand même plus simple, on peut rêver de ça des fois, de dire à Dieu, mais ça serait tellement bien, Seigneur, si d'un coup de baguette magique, d'un côté, tu supprimes tous mes péchés, de l'autre, tu me permets d'aimer tout le monde avec, comme saint François d'Assise. Ben oui, mais saint Thomas nous dit, on peut rêver à ça, mais ça n'exprimerait pas la douceur de Dieu. C'est pas si fréquent que ça que dans la somme, on parle de la douceur de Dieu. Hein. Mais c'est pas un truc, mais donc je pense que c'est vraiment important comme... Donc voilà comment saint Thomas comprend le salut. En fait... Nous sommes mus par des grâces actuelles jusqu'au baptême. Et quand nous sommes baptisés, c'est le schéma normal, hein, je vous fais. C'est le schéma sacramentel, le modèle type. Hein, ça ne veut pas dire que c'est majoritaire. Pas comme ça que ça se passe. Parce que je souhaite qu'il y ait des millions d'hommes qui, avant le Christ, au moins, en tout cas, ont reçu la grâce sanctifiante au rang. Mais normalement, nous sommes mus par des grâces actuelles, à nous intéresser au Christ, à la Bible, à la messe, tout ça. Et il y a un moment donné où ces mouvements nous amènent à demander le baptême. Et quand nous sommes baptisés, c'est vraiment, ça fait partie de la grâce du baptême, nous recevons la grâce sanctifiante. C'est un habitus surnaturel, mais cet habitus, il est, c'est comme si c'était la première fois qu'on avait joué du piano. Donc on ne peut pas sortir du baptême en disant « ça y est les gars, je suis saint ». Je suis saint dans l'origine de l'habitus, mais j'ai toute ma vie pour faire grandir cet habitus. Et ça explique aussi pourquoi des gens peuvent vous dire presque déçus, finalement, je pensais que ça, je serais plus différent le lendemain de mon baptême, qu'il ne s'est rien passé. Si, il s'est passé quelque chose. Mais pour reprendre la parole de Jésus, c'est la graine de Saint-Vie que tu as reçue, c'est quasi invisible. Mais maintenant, tu es dans un deuxième dynamisme, tu as plus simplement le dynamisme d'avant ton baptême, où Dieu, c'était principalement par des grâces actuelles que Dieu te dirigeait vers le baptême, tu as reçu en toi le principe même de la sainteté. C'est un habitus surnaturel. Alors voilà ce que c'est que la grâce sanctifiante. Je pensais vous parler des limites du truc, mais comme c'est moins 10, vous avez peut-être des questions, comme ça on s'arrêtera à 10 heures. Donc voilà, la grâce qui nous rend saints, c'est cette grâce habituelle. Y a-t-il des questions ? Oui.
Oui, c'est quoi les limites ?
Et toi, qu'en dis-tu donc Alors, quelles peuvent être les limites? Luther, par exemple, était farouchement opposé à cette présentation de la grâce. Pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait gêner quelqu'un comme Luther? Quel est le point fort? Ce que je trouve le point fort de la grâce sanctifiante, c'est qu'elle rend bien compte, je trouve, du fait que la sainteté... c'est ce que je dis souvent, enfin, oui, enfin, je le répète beaucoup comme toutes les personnes âgées, hein, c'est il faut toute une vie pour donner sa vie à Dieu, vous voyez, c'est-à-dire que la vie avec le Christ, la vie avec Dieu, c'est pas quelque chose de l'ordre uniquement de l'extase ponctuelle, hein, vous voyez, il y a une histoire, il y a un progrès, des fois il y a aussi des coup de mou, hein, ça arrive, mais vous voyez, la notion de vertu, elle est extrêmement bien adaptée par son origine philosophique à rendre compte d'un perfectionnement progressif dans l'ordre de la sainteté, insensiblement. Et je pense d'abord que c'est vrai, enfin, je crois que c'est fondamentalement vrai, enfin, c'est toute l'expérience, on pourrait dire que c'est la sainteté des petits pas. Hein. Le pape François en a parlé à plusieurs reprises, c'est chaque jour Dieu nous demande de faire un petit pas. Mais 1000 petits pas, ça fait encore un petit pas. Enfin, c'est des tout petits pas, mais on peut tromper 1000 personnes. Enfin, non, mais en réalité, vous voyez, c'est un côté à la fois... Nous, on peut rêver de l'acte héroïque, hein, et c'est ce que font les martyrs. Mais il y a beaucoup de saints, à mon avis, ils sont saints par les petits pas. Et c'est très beau aussi, ça exprime autre chose de la sainteté. C'est pas le gars qui, du jour au lendemain, se convertit, puis va... meurt dans une persécution, alors on dit mais c'est magnifique ce gars, oui voilà le gars qui la veille encore insulter les chrétiens, qui brusquement est renversé, c'est très très beau, ça nous dit très bien qui est Dieu, ça nous dit peut-être un peu moins qui est l'homme à qui Dieu parle. Oui, donc l'homme est un être inscrit dans la temporalité, dans le chronos, il n'y a pas que du kairos, hein, il y a du chronos, et la grâce sanctifiante exprime très bien je dirais le fait que, si je prends une métaphore marine, hein, il y a une quille, enfin oui, il y a un truc, il y a une stabilité, il y a quand même un acte. Ça permet aussi beaucoup de consoler les gens. Parfois, je vois nous, souvent, on est un peu trop, surtout notre époque, hein, on passe notre temps à prendre mot de pouls, est-ce que je vais bien, est-ce que je vais pas bien, pour savoir ce que je veux dire sur Twitter. Donc, on est là toujours à s'examiner, dire est-ce qu'aujourd'hui, comment. Oui, non, c'est quoi mon ressenti aujourd'hui. Mais je dis pas que c'est tout à fait absurde, attention, hein, parce que Saint Ignace de Loyola nous invite à nous écouter aussi. Mais c'est réconfortant de dire à quelqu'un la grâce, c'est plus une intégrale qu'une dérivée, vous voyez. C'est quand même beaucoup plus... parce que là, on se dit, bon, ben voilà, enfin, c'est plus une intégrale qu'une valeur f de 0, ça veut rien dire, en fait. Ce qui compte, c'est l'intégrale, vous voyez. Ce qui compte, c'est même si... alors, quelqu'un qui, par exemple, connaît un coup de mou, quelqu'un qui, même ponctuellement, est tombé dans un péché, vous pouvez lui dire, mais attendez, c'est d'accord, bon, c'est... Vous avez péché, mais enfin, ça, c'est regrettable. Mais le Seigneur vous pardonne. Et puis, le démon, il est très fort dans ces cas-là pour dire, bon, mais puisque je suis tombé, en fait, c'est comme si ça annulait toute ma vie avec Dieu. Mais pas du tout. C'est pas la dynamique de la grâce. Le salut va me redonner, ça ne remet pas le compteur à zéro. Il y a une continuité dans la sainteté. Alors, par comparaison, le point faible, ben, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que la grâce comme vertu, c'est pas la bonne catégorie pour faire sentir ce qui est là. Ce qui est de l'ordre du ponctuel, ce qui est de l'ordre de l'élévation mystique, ce qui est de l'ordre du charisme, ce genre de choses. Par exemple, c'est pas la bonne catégorie, à mon avis, et ça, saint Thomas, je pense, est proche de le dire, pour rendre compte de la théologie de la prière. Parce qu'on peut être dans il se passe des choses dans notre prière. Qu'est-ce qui se passe dans notre prière? Qu'est-ce qui se passe dans notre oraison? De quoi c'est l'indice? C'est une grande question, ce qu'on appelle la théologie spirituelle. Et les catégories de la grâce sont beaucoup trop grossières pour rendre compte de ça. Alors, il faut utiliser d'autres leviers. En général, traditionnellement, on prend les dons du Saint-Esprit. Il y a d'autres manières de faire. Donc, vous voyez, il y a des choses... Ça nous dit, ça nous dit la ligne de fond. Ça nous dit pas l'écume. Ça nous dit pas... Or, elle est parfois importante, cette écume. La grâce actuelle nous la dit plus, pour le coup. Mais il y a d'autres ressources. Nous avons les dons du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Luther déteste cette notion? D'abord parce que habitus existe Aristote. Est-ce que Luther aime Aristote? Comment est-ce qu'il a dit que... Comment il appelle la raison déjà, Luther? Le sclave, non. Attends, c'est où le micro de... Il appelle ça la putain du diable, hein. Pour Luther, la philosophie, c'est essentiellement une œuvre diabolique. Parce que c'est une œuvre où l'homme prétend s'emparer, par exemple, de Dieu, de questions divines, du bonheur, de choses qu'il ne peut recevoir que de Dieu à partir de lui-même. Donc pour Luther, toute la théologie scolastique, c'est l'horreur absolue. C'est un mélange impie entre la sainte parole de Dieu et les arguties des philosophes. C'est immonde. Donc déjà, il n'aime pas à cause du vocabulaire, et il n'aime pas à cause de son expérience spirituelle propre, parce que justement, l'expérience de Luther, c'est que, en fait, on n'est jamais saint. On est toujours... En fait, l'expérience spirituelle de Luther, c'est qu'on est toujours plongé en enfer, et puis Dieu nous arrache par les cheveux et nous met la tête au paradis, en permanence. Alors, Luther, c'est le grand... Alors pour le coup, là, c'est de la dialectique, hein, chez Luther. Hein. C'est le « simul peccator et justus ». Il n'y a pas du tout l'idée chez Luther qu'on est habité par, que le Seigneur nous donne un principe d'action surnaturel qui fait que je deviens coopérateur de mon propre salut. Pour Luther, ça, c'est déjà retombé dans la logique des œuvres et de la loi. C'est une manière déguisée d'être juif, en fait, pour Luther, la grâce habituelle. C'est une manière déguisée. On appelle ça la grâce, en fait, c'est plus du tout la grâce. Alors donc, c'est là où on voit que Luther est à l'origine aussi... d'une vision de la liberté qui nous parle beaucoup, parce que la fille Luther engendra Kierkegaard, Kierkegaard engendra Heidegger, et Heidegger engendra Sartre. C'est-à-dire une espèce de liberté. C'est exactement la figure de la liberté qu'on a aujourd'hui. L'idée de dire je suis libre parce que j'ai toujours fait comme ça, parce que j'ai grandi, je suis libre en m'astreignant à 10 heures de gamme tous les jours pendant 10 ans, je suis devenu libre. C'est une expérience de liberté. C'est pas tellement comme ça. Aujourd'hui, on dit la liberté, c'est plutôt lancer un caillou sur les forces de l'ordre. Enfin, vous voyez, c'est toujours. Non, mais c'est jamais une expérience qui est dans la continuité d'un progrès humain. C'est toujours une liberté révolutionnaire. C'est toujours contre. Et c'est un contre ponctuel. Je me révolte contre. Je suis indigné par. Votre regard me rend esclave. Vous me voyez comme un tel. Mais je vais vous prouver qu'en fait, je suis pas ce que vous croyez que je suis, en faisant tout à fait le contraire. Et puis demain, je ferai encore autre chose. Notre liberté, c'est une liberté, la figure de la liberté qu'on a, qui n'est pas entièrement fausse, ça fait partie de la liberté, mais c'est pas une liberté du chronos, c'est pas une liberté de la durée, c'est une liberté de l'instant. Vous voyez ? Alors, peut-être, c'est toujours dit, on n'aura jamais de théorie qui... Enfin, comment dire, il faut accepter que nos mots sont parfois... En tout cas, on n'a pas un mot qui rencontre de tout. On a différents aspects... La grâce sanctifiante nous dit un aspect, pas tout. La grâce sanctifiante n'est pas bonne pour rendre compte de ce que c'est qu'une conversion, par exemple. C'est pas ça qu'elle sert. Alors que Luther, il dit, mais en fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui se convertit 1000 fois par jour de l'abîme du péché à l'abîme de la grâce. Oui, donc c'est... Voilà les avantages et les inconvénients. Mais du coup, c'était pas une question, mais maintenant, je suis arrivé à 22h. Il n'y a plus de questions. J'ai pas mes lunettes, donc tu te grattes la tête, hein, Emmanuel.
Ma question, c'est entre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, n'est pas baptisé et qui agit vertueusement, parce que y a plein de personnes comme ça, et un baptisé qui a en soi la grâce sanctifiante, ce principe d'action et tout, et qui agit vertueusement, quelle est la différence exacte? Est-ce qu'elle correspond, est-ce qu'on peut la voir, et est-ce que c'est donc l'expression concrète de la grâce sanctifiante, comment elle s'exprime?
C'est là où je dirais on n'a pas de thermomètre de la grâce. C'est-à-dire que la bonne doctrine catholique, c'est que Luther dit sans la grâce, on ne fait que le mal, en fait. C'est plus simple, en un sens. Hein, il reprend une phrase de saint Augustin, un jour il était de mauvais poil. Enfin non, c'est pas qu'il était de mauvais poil, d'ailleurs. Il était de bon poil. Mais il la comprend. Saint Augustin a dit dans la Cité de Dieu, si je me souviens bien, les vertus des païens sont des vices. Sympa ça, les vertus des païens sont des vices. Alors, en fait, Luther comprend ça d'une manière radicale. Il dit tous les actes des païens sont des actes mauvais. Mais c'est pas ce que croit Augustin. Augustin, il dit qu'à cause du péché, certes, l'homme peut faire le bien, mais il peut pas s'installer, il peut pas être. Justement, ce que désigne la vertu, il ne peut pas avoir comme ligne directrice et constante de sa vie le bien. On sera toujours plus ou moins des girouettes. Et il n'a pas, à mon avis, pas complètement tort, même si on peut toujours donner des exemples de personnes qui, visiblement, mais puisque c'est ça la grande idée de saint Augustin, c'est que on veut et on ne veut pas le bien. C'est ça le drame, en fait. On est toujours une girouette, on est partagé, il y a deux jeux en moi. Alors, il radicalise un peu des trucs de saint Paul, mais ça, c'est une autre question. Alors, la question que tu dis, moi, je vois deux manières de répondre. Je peux dire, il y a d'abord, nous, catholiques, nous pensons que la nature humaine n'est pas entièrement corrompue par le péché, et la nature humaine, la créature humaine, elle est belle, en fait. Ça aussi, c'est un truc qu'on voit très bien quand on évangélise, c'est que, en fait, moi, les moments où je trouve que les êtres humains sont les plus beaux, c'est quand j'évangélise. Alors, d'une manière générale, j'ai plutôt des réserves sur l'humanité, mais là quand donc c'est une sérieuse réserve, mais en fait la créature humaine est très belle, même dans sa misère, elle est Alors, donc une première réponse, ça serait de dire la nature humaine n'est pas corrompue, et donc même si on ne va pas réussir à s'installer durablement, il y a quand même des ressources, il y a des gens qui ont, oui, il faut reconnaître, il y a des gens qui sont mieux dotés, on va dire, par la nature, qui ont plus de volonté, qui ont peut-être aussi une histoire qui a prédisposé, enfin, il y a tout ce qu'on appelle l'ajectité, enfin, ou l'affecticité, pour parler comme Heidegger, donc il y a des gens qui sont dans un bon milieu, enfin, il y a des... qui ont un bon naturel, et on peut dire, ben oui, c'est une belle humanité, en fait. Il n'est pas du tout chrétien, mais c'est une belle humanité. On peut dire aussi, mais c'est incapable, enfin, on ne peut pas trancher, seul Dieu, de dire, mais c'est de foi, ça, pour le coup, c'est même très, très clairement dit par le magistère, que Dieu est absolument libre de donner la grâce, et même la grâce sanctifiante, totalement en dehors du baptême. C'est dit, c'est même très important pour comprendre ce que c'est que le baptême, d'ailleurs, cette histoire-là. Donc, je peux aussi te répondre, ben... Je ne lis pas dans les cœurs, mais j'ai le sentiment que cet homme, sans être chrétien, et peut-être même, il pourrait même dire « je ne crois pas en Dieu hein, », parce que c'est, on peut dire « je ne crois pas en Dieu » parce qu'en fait, on a raison de ne pas croire au Dieu qu'on s'imagine. Il y a bien des gens, à un moment donné, quand ils disent qu'ils sont athées, quand tu leur demandes qu'est-ce que c'est que Dieu pour eux, tu dis bah, « heureusement qu'il est athée, le gars ». Après, il faut peut-être essayer de dire « mais il y a peut-être pas que ça en Dieu hein. ». Et on peut dire ben voilà, je vais visiblement devant moi quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre a été rejoint par la grâce et finalement c'est très beau. Alors ça ne vous dispense pas de lui annoncer le Christ, hein, attention. Hein, mais donc je vois un peu les deux réponses, tu vois, nature pas entièrement corrompue et Dieu est libre de donner la grâce sanctifiante en dehors du baptême. Vas-y, et après, est-ce qu'il était bon, amis ?
Moi, j'ai pas de questions, mais
explique-moi. Ah bon,
donc quand il donne la grâce sanctifiante, mais il y a des il la donne ou la donne pas
En un sens, la grâce sanctifiante, c'est binaire au sens où l'habitus infus, tu l'as ou tu l'as pas. Tiens, ce qu'on appelle l'état de grâce, maintenant on n'utilise plus tellement ce vocabulaire. L'état de grâce, vous connaissez ce que ça vous dit qu'on dit, est-ce que je suis en état de grâce? Voilà. En fait, l'état de grâce, c'est exactement la même chose que dire la grâce sanctifiante. Hein. Un péché mortel, entre guillemets, ça vous fait perdre la grâce sanctifiante. Expression que je critique, moi. Je trouve que c'est pas... je trouve que, justement, ça fait trop carte de mort. Hein, et c'est pas du tout ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il a une vision extrêmement dynamique. C'est pas... Bon. Mais voilà. Donc, pour répondre à ta question, l'habitus, on l'a ou on l'a pas. Mais, si tu veux, un habitus infus que j'ai jamais... Il y a des tas de gens qui sont baptisés et qui ont jamais été... qui ont jamais une vie chrétienne sérieuse. Pas forcément de leur faute, d'ailleurs. Ça peut être que, voilà, dans leur famille, on les a pas aidés ou que j'en sais rien. Ils ont... Bon. Bah, d'une certaine manière, c'est comme un embryon qui ne devient jamais un homme. C'est la graine de sénévé qui n'a pas grandi. Donc, ils ont peut-être eu l'habitus, peut-être qu'ils l'ont perdu par un péché mortel, j'en sais rien. Enfin, tu vois, ça n'a pas donné.
Moi, ma réaction, c'était peut-être que c'est-à-dire que, il peut quand même, enfin, est-ce qu'il peut plus ou moins donner la grâce habituelle
Il ne la donne pas plus ou moins. Il te donne un habitus, mais en fait, cet habitus, il te qualifie à agir. Comment dire ? Cet habitus, c'est pas d'élite de super. C'est-à-dire que ça te permet d'agir en même temps que Dieu. Ça te donne une histoire sainte avec Dieu. Ça qualifie, dans l'ordre de la sainteté, ton histoire. Mais du coup, ton histoire, tu peux y mettre plein de choses. C'est-à-dire que, d'un certain côté, on peut dire, on a tous, quand on est baptisé, on a tous l'habitus, mais on a tous des vies différentes, des vocations différentes. Bon, ça ne fait pas de nous des clones, au contraire, d'ailleurs, parce que nous nous ressemblons par nos péchés et nous différons les uns des autres par notre sainteté. Et ce qui nous agace le plus, c'est que les différences qui nous agacent, c'est la manière, le fait que l'autre, sa manière de ne pas être saint est différente de la mienne. C'est comme ça que nous agaçons, en fait. Là où nous sommes saints et là où l'autre est saint, même s'il y a une immense différence, en fait, nous nous aimons. Ça ne nous agace pas que l'autre soit saint différent de nous. Donc tu vois, c'est la grâce sanctifiante, c'est un principe d'action, mais ça ne te donne pas un contenu d'acte. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu peux dire, bah, tiens, je vais être telle chose, je vais être père de famille, je vais être prêtre, je vais être moine, je vais partir missionnaire, je vais être... Enfin, tu vois, ça ne remplace pas tes décisions de liberté, mais ça fait que tes décisions de liberté vont être posées avec Dieu. C'est ta partie de coopération avec l'œuvre du salut.
Mais c'est une question, mais qui sera pas liée du coup à la grâce pour les gens qui ne croient pas. Le fait que, oui, bah pour plaire à Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il est rémunérateur.
Oui.
Est-ce que ça, c'est bronze, oui. Est-ce que ça, c'est une condition pour recevoir la grâce habituelle ou c'est une condition pour le salut enfin, j'avais indépendance, mais autre que celle de la grâce.
Non, moi, je pense que c'est indispensable, la grâce, mais je prends les choses un peu à la Blondel, c'est-à-dire qu'il s'agit moins de quelque chose qui n'affleure pas forcément à la conscience. Pour moi, j'accorde d'un certain sens moins d'importance à la conscience que l'homme moderne ou que l'homme cartésien, et plus au dynamisme foncier d'une liberté. Alors, qui normalement affleure aussi à la conscience, parce que tout ne se fait pas en sous-main, il n'y a pas que des tâches de fond. Hein. Mais je trouve je le sens pour moi, puis je le vois mieux, je trouve qu'on juge mieux un homme à ça. Oui, au dynamisme de sa volonté, qu'à son discours, qu'à ce qu'il peut nous dire de nous-mêmes. Donc, chercher Dieu et croire qu'il est rémunérateur. Encore une fois, je pense que des gens qui te diront « je suis athée », mais en fait, ils cherchent Dieu. Enfin, moi, j'en ai rencontré plein, des gens comme ça. Hein. En fait, même, j'en rencontre que ça, d'ailleurs. C'est presque un homme, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Et refuse Dieu, c'est encore une manière de le chercher. Mais attention, c'est qu'il y a un moment donné où il y a quand même le péché, et on peut tomber dans une opposition à Dieu.
Mais enfin, avec ça, ça fait que la phrase un peu est vidée de son sens. Enfin, si tout homme cherche Dieu, et c'est un peu le dit pour être sauvé, il faut croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. Enfin, finalement, ça fait qu'il n'y a plus de.
Ah, je crois qu'il ne dit pas être sauvé, hein, c'est la foi, c'est une définition de la foi.
Enfin, pour plaire à Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il est rémunérateur. Je crois que c'est ça. Mais donc, si tout homme croit que Dieu existe dans son manière. Non intentionnel, en fait, c'est juste que ça
a. Non, je pense qu'il y a toujours un. Je pense qu'il y a toujours un. Même Satan, c'est un être qui a soif de Dieu à sa façon, puisqu'il passe son temps à l'imiter. Donc, si on a un désir, je pense qu'on utilise foi pas exactement dans le même sens. Il y a une foi qui est une foi amoureuse. En fait, un homme, tout ce qui est plus petit que Dieu, ça finit par le décevoir. Mais il y a deux manières de chercher Dieu. Il y a une manière qui consiste à recevoir Dieu. Et il y a une manière qui consiste à vouloir être Dieu à la place de Dieu, mais c'est deux recherches de Dieu. Tu vois, c'est pas le même sens que je donne à désir de Dieu. Et donc, effectivement, ce qui est difficile, c'est quand quelqu'un cherche Dieu, mais il n'a pas leur. Ça peut déjà être du boulot, parce qu'il a plein d'images sur l'église, les machins, enfin, en disant, mais c'est bon, surtout pas Dieu, oui, mais pas les religions, ou même pas Dieu, les religions. Puis en fait, tu sens qu'il a géré une espèce de mouvement de droiture spirituelle. Bon, ça peut être du boulot, mais c'est pas vraiment une conversion, je dirais. La vraie conversion, c'est quand Dieu est capable de réorienter quelqu'un qui voulait être Dieu à la place de Dieu, c'est quelque chose de satanique en fait, hein, à quelqu'un qui veut être Dieu en le recevant de Dieu. Allez, on va se quitter, bons amis, on va dire les. Oh là 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 là! Oula!